frères et sœurs, êtes-vous capables de dire « Je sais pourquoi je vis »« Je sais en vue de quoi je vis » C'est une chance que de pouvoir énoncer ainsi « Oui, je sais quel est le sens de mon existence » et ce sens n'est pas absurde. Un exemple rapide, c'est le témoignage d'un homme qui disait « J'ai découvert que je voulais faire vibrer les gens avec mes contes. Je voulais qu'ils rêvent, qu'ils aient peur, qu'ils espèrent, qu'ils désirent, et cela à partir des contes que je raconterais. J'ai découvert que c'était cela mon but, et cela m'a libéré d'un faux objectif, montrer à mon père que je pouvais gagner autant d'argent que lui, que je pouvais être son égal par l'argent que je gagnerais. » Découvrir le sens de sa vie, découvrir le sens de sa vie pour la vivre véritablement ou la reprendre éventuellement. En tout cas, c'est ce qui s'est produit avec la Samaritaine en cet épisode. Lorsqu'elle dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait » et dans certaines versions on nous dit même qu'elle courut à la ville pour dire cela. Lorsqu'elle parle ainsi, elle ne veut pas dire que Jésus lui a fait une minute des événements de son existence. À 10h15, tu avais fait cela, à 10h32, tu as fait cela, à 10h43. Ce serait peut-être amusant, étonnant, mais pas bouleversant. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Voilà que Jésus lui a permis d'entrer dans le sens de tout ce qu'elle a vécu. Il l'a conduit, en fait, au sens profond de tout ce qu'elle a vécu. Il lui a permis de nouer en un sens les événements de sa vie, un peu à la manière d'un historien qui ne se contente pas seulement d'établir une chronologie d'événements, mais qui tâche d'en faire une histoire, avec un sens, un développement, un dénouement. Et ça, ça fait bouger les autres. Voilà, c'est tellement rare et précieux que de pouvoir recevoir le sens de son existence que les gens du village se déplacent. Et ils font auprès de Jésus la même expérience. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Parce qu'il redonne aux choses, il redonne aux vies leur sens. Eh bien, je voudrais que nous ayons la même envie que cette femme et que ces Samaritains, de trouver auprès de Jésus le sens de notre existence, de trouver auprès de Jésus une lumière qui donne sens à notre vie. Aller ainsi à la rencontre de ce Jésus miséricordieux pour recevoir de lui la clé de notre existence. Eh bien, je vous propose de regarder cet épisode de plus près, car lorsqu'on le voit de plus près, je crois qu'il donne envie de cette rencontre avec Jésus qui donne le sens. Il y a une façon de lire cet épisode de la Samaritaine que j'aime bien. On remarque que cette femme ne doit pas être commode, elle a enchaîné 5 maris tout de même. Et puis, elle choisit une heure pour venir au puits, la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'heure très chaude, où normalement elle ne devrait rencontrer personne, elle a choisi de pas vouloir rencontrer de monde. Et en même temps, cette femme ne doit pas manquer de charme, elle a attiré un 6e. Dans ses échanges, dans ses paroles, il y a un côté rebelle et vivace qui n'est pas inintéressant. Elle a de la répartie et elle est un peu provocante. « Tu me demandes à boire, mais tu sais vraiment qui tu es? Et tu as fait attention à qui je suis, une Samaritaine? Es-tu sûr de conserver ta demande ?» Elle envoie une pique à Jésus sur son identité et sur sa demande. Un autre interlocuteur pourrait devenir tout confus et cesser là tout contact. C'est vrai, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais Jésus accepte de croiser le fer avec elle. Il relance sur l'identité. Si tu savais qui est celui qui te parle, tu lui aurais demandé à boire. Mais tu ne sais pas le don de Dieu, l'eau vive. Elle réplique. Tu as quoi pour puiser? Où sont tes outils, beau parleur? À moins que tu sois plus grand que notre père Jacob. La légende voulait que, quand Jacob venait au puits avec ses troupeaux, l'eau montait d'elle-même, il n'avait pas à puiser pour abreuver son troupeau. Repique sur l'identité de Jésus, est-ce que tu serais plus grand que notre père Jacob? Il y a dans ce dialogue, et c'est une lecture, il y a d'autres lectures de cet épisode de la Samaritaine, mais c'est une lecture qui tient la route, il y a dans ce dialogue un jeu entre les deux. Un jeu qui est à la limite de la séduction, qui pourrait déboucher sur ce niveau. Jésus reprend, « Tu ne comprends rien. Toi, l'eau dont tu parles, on aura encore soif. Moi, » et à nouveau, c'est son identité qui est au centre. « Je donne une eau vive, moi je donne une eau vive. On n'aura plus soif. Elle sera source jusqu'en vie éternelle. » Alors là, la femme mord à l'hameçon. « Donne-moi de cette eau. » Et en même temps qu'elle mord à l'hameçon, elle joue encore, faisant mine de partir. « Voilà, que je donne-moi de cette eau que je n'ai plus à venir ici pour puiser. C'est pourtant le lieu où nous nous rencontrons tous les deux. Est-ce que tu ne me retiendras pas ? Est-ce que tu ne diras pas que c'est dommage qu'on n'ait plus l'occasion de se revoir ? » Je pense là qu'il faut rappeler que dans l'Orient ancien, le puits est le lieu des rencontres pour le mariage. C'est là qu'Isaac a rencontré sa femme Rebecca. C'est là que Moïse a rencontré sa femme Tsipora. Dans la littérature, dans la poésie de l'Orient ancien, c'est une forme convenue que la rencontre d'un homme et d'une femme au bord d'un puits débouche sur un mariage. Mais là, Jésus va transformer la conversation. Vous savez, quand vous voulez calmer quelqu'un qui flirte, demandez-lui des nouvelles de son conjoint ou de ses enfants. « Va, appelle ton mari et reviens », lui dit Jésus. Elle tente de prolonger « Je n'ai pas de mari, je suis disponible ». Avec la réponse de Jésus, la conversation va tourner. Du jeu, on va passer au cœur de sa vie. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Mais voilà que ce constat n'est pas un constat qui tue. Voilà que ce constat ne condamne pas. Il met en vérité. Elle reconnaît d'ailleurs en lui un prophète. Elle sort de la fausseté, elle sort de la prétention, elle sort de ce qu'il faudrait paraître. Et en même temps, c'est difficile. Elle va changer le sujet. Où faut-il adorer ? Elle ne rompt pas le contact, mais elle ne supporte pas de rester sur le sujet de sa vie familiale et conjugale. En même temps, la parole de Jésus, qui va reprendre cette question de l'adoration, va donner un nouvel élan. Parce qu'il va parler d'adorer en esprit et en vérité. Mais souvenons-nous que dans le grec qui est utilisé, le mot esprit, c'est pas le mot qui désigne intellect, c'est pas le mot qui désignerait l'intellect à une vérité, on pourrait dire froide. Esprit, c'est le mot qui est utilisé pour Esprit Saint, le pneuma, littéralement le souffle. Donc adorer avec le souffle et en vérité. Donc une adoration qui redonne du souffle à notre existence, pour la saisir, la regonfler, lui redonner un élan vrai. Et elle se laisse toucher. Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Et Jésus lui répond, je le suis, moi, qui te parle. Pas seulement je le suis, mais je le suis, moi qui suis en relation avec toi. Jésus peut nous mettre en vérité par rapport à notre vie, par rapport au sens de notre existence, parce qu'il est là, avec nous, parce qu'il entre en relation avec nous, parce qu'il nous accompagne, parce qu'il demeure. Et c'est là le cœur de l'histoire. Jésus est avec elle, au milieu de son histoire. Souvenons-nous, dans la première lecture, la crainte du peuple hébreu dans le désert, c'était que Dieu ne soit pas au milieu d'eux. Eh bien voilà que cette affirmation de Jésus au cœur de notre histoire, pour nous donner ce souffle et nous permettre d'être en vérité, est quelque chose qui vient toucher, rejoindre notre situation aujourd'hui. Jésus est présent dans notre épreuve, l'épreuve que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, avec cette épidémie, avec les conséquences du confinement qu'il nous est demandé. Jésus est présent avec nous. Il est le fidèle. Il est celui qui donne sa vie pour nous alors que nous étions pécheurs. Ce n'est pas une épidémie qui va le dissuader d'être présent et de nous rencontrer et de venir nous rejoindre. Alors, avons-nous conscience qu'il est le Dieu qui est présent, qui est le Dieu qui nous accueille, qui se réjouit de ce que nous sommes, qui peut même, comme avec la Samaritaine, jouer avec nous. Non pas se jouer de nous, mais jouer avec nous comme un premier pas pour bâtir cette relation et nous mettre en vérité, parce qu'il nous donne son souffle, un souffle de vie. Il est fidèle, et s'il nous fait des reproches, c'est pour nous remettre droit, c'est pour nous remettre en selle, et non pas pour exclure. Voilà que Jésus est celui qui est capable de faire du venin des événements de notre vie un signe de son amour jusque-là. C'est une chose toute particulière à Jésus. Par sa présence, il peut transformer des événements venimeux de notre existence en signe de l'amour. Voyez, un peu comme parfois vous trouvez ça sur les souks, un scorpion qui est pris dans de l'ambre. Voilà, un scorpion tout seul, c'est dangereux, surtout vu la taille de ceux qui sont dans ces bijoux. Le scorpion vivant, ce serait un danger mortel. Mais voilà que quand il est pris dans l'ambre, c'est un objet de décoration. Ce qui était mortel est devenu un objet de beauté. Ou dans une vie, Saint Paul le persécuteur est devenu Saint Paul le persécuteur miséricordieux, l'apôtre. Et bien que cette épidémie que nous subissons actuellement, qui est un mal objectif et qui a des conséquences difficiles, que ce soit de confinement, que ce soit d'arrêt de l'activité, qui est d'occupation, d'éducation des enfants, il y a de multiples problèmes qui surgissent à cause des mesures prises pour endiguer la propagation. Et bien que cette épidémie deviennent par la présence de Jésus avec nous une occasion d'un surcroît de charité. Vous voyez, le mal parasite notre vie, l'épidémie parasite notre vie, que la charité vienne parasiter l'épreuve de ce mal. Que la charité vienne parasiter l'épreuve de ce mal, que ce soit l'occasion d'un surcroît de charité. Soyons alors attentifs les uns aux autres, tout particulièrement. Dans le respect des consignes, que personne ne meure à cause d'une autre négligence de notre part. Soyons attentifs les uns aux autres aussi dans cette vigilance de charité. Puissions-nous venir en aide à ceux qui seraient en détresse matérielle, hein, c'est faire mes courses, pouvoir chercher mes médicaments, peut-être que je ne suis pas en état de le faire, que nous soyons disponibles pour cela. Détresse relationnelle aussi. Le confinement est bien une réduction des relations, mais il y a des moyens de briser un isolement. C'est prendre quelques nouvelles par téléphone, envoyer un message par email, ou bien, pour ceux qui ne peuvent pas utiliser ces moyens-là, une carte. Peut-être donner simplement un dessin d'enfant. Ils ne peuvent plus aller visiter les gens, mais un dessin d'enfant pour dire « Je pense à vous, nous pensons à vous, vous n'êtes pas tout seul. » Puissions-nous faire de cette épreuve une occasion d'un surcroît de charité. Seigneur Jésus, donne-nous de te découvrir comme la Samaritaine te découvrit. Toi qui es capable de nous accueillir tels que nous sommes et de nous mettre en vérité jusqu'à découvrir le sens de notre vie, donne-nous de relire notre vie en ce carême à la lumière de ta miséricorde pour retrouver le souffle dans la vérité. Délivre notre pays, délivre notre ville, délivre notre monde de cette calamité, quelle épidémie. Que nous sachions, par le souffle de ton esprit, faire de cette épreuve une occasion de surcroît de charité. Amen.